Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique.
Et nous sommes en ligne avec notre correspondante aux États-Unis, Carrie Noten. Bonjour Carrie.
Bonjour Carrie.
Bonjour Dominique, bonjour Marina, bonjour à tous.
Pour un air d'Amérique un peu international ce matin, vous allez revenir avec nous sur la grande réforme fiscale internationale, initiative de l'administration Biden, qui aura un impact bien plus large que sur les seuls États-Unis, puisque cette réforme a été acceptée par 130 pays de l'OCDE et devrait même être soumise au ministre des Finances du G20 dans 2 jours, Carrie.
Oui, ils se rencontreront à Venise et puis ils devront passer en revue les détails de ce projet qui est déjà désigné comme l'accord fiscal international le plus important conclu depuis plus de 100 ans, rien que ça, Dominique. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien de faire payer les entreprises un montant d'impôt juste partout, au minimum à 15% de leurs revenus, même s'ils n'ont pas d'entité physique dans le pays, mais qu'ils y vendent juste des services, suivez mon regard. On parle bien des grands du numérique, les GAFA, Google, Amazon, Facebook en tête. Alors, pour Joe Biden, cela empêchera les multinationales de faire monter les pays les uns contre les autres, les obligeant à baisser leurs impôts pour être plus attractifs. Cela devrait permettre, en tout cas aux 130 pays qui auront signé, de lever 130 milliards de dollars d'impôts en plus chaque année. Et c'est une décision qui marque un coup d'arrêt à la tendance depuis les années 80 d'alléger l'impôt sur les sociétés globales. Il faut savoir qu'en 40 ans, celui-ci est quand même passé de 46 à 26% en moyenne, c'est ce qui a bien sûr entamé largement les ressources des États. Et là où c'est assez fort, eh bien, c'est que la Russie, l'Inde et la Chine se sont joints au mouvement alors qu'ils étaient assez sceptiques à l'origine.
Ouais, ça, c'est un coup de maître. Pourquoi Joe Biden est-il passé par l'OCDE ? Pourquoi a-t-il joué la carte du collectif finalement ?
Alors oui, d'une certaine façon, le fait que les Américains aient opté pour un accord multilatéral, eh bien, ça bien montrait la préférence de Joe Biden pour une diplomatie patiente plutôt que les coups joués de façon unilatérale par son prédécesseur, Donald Trump. Mais il ne faut pas oublier que cet impôt minimal international, c'est un élément essentiel du plan de Biden pour augmenter les impôts sur les entreprises sur le territoire américain même. Donc cela sert bien évidemment les intérêts, l'agenda de son administration. Comme tous les autres gouvernements, Washington a besoin d'argent pour financer les plans de relance rendus nécessaires par la pandémie. Le président américain a proposé un impôt minimum de 15% pour les sociétés qui ne pourront plus se cacher derrière les déductions à n'en plus finir. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, qui est la ministre des Finances en fait, clame que cela marque une étape historique de la diplomatie économique, mais aux Américains, elle leur dit surtout que cela va permettre de contrebalancer la perte des emplois américains, car les Américains de la Rust Belt, de ces Américains manufacturiers sont encore assez mécontents.
Et est-ce que tous les détails sont déjà réglés ? Quand les chefs d'État espèrent-ils pouvoir mettre tout ça en œuvre ?
Eh bien non, il reste encore beaucoup de détails à régler. Il va falloir aligner 130 systèmes de taxation différents, imaginez bien. Chacun de ces pays va devoir faire réviser son code des impôts. Et puis surtout, ça va demander une coopération, une coordination constante entre les pays. Et c'est cela qui risque d'être le plus difficile à mettre en place. Et puis enfin, s'accorder sur ce que les entreprises aux services dématérialisés doivent, eh bien ça va être particulièrement complexe. On parle d'entreprises numériques qui engrangent plus de 20 milliards d'euros en vente annuelle. Et puis il y a un petit accroc au tableau aussi. Donc les paradis fiscaux freinent des cas de fer, bien sûr, mais surtout 9 pays s'opposent fermement au plan, dont 3 européens, la Hongrie, mais aussi l'Estonie et l'Irlande, qui accueillent justement de nombreuses entreprises numériques et aimeraient rester attractives. Voilà. Alors les États-Unis annoncent néanmoins que la version finale devrait être approuvée pour fin octobre cette année.
On suivra ça. Merci beaucoup, Carrie. Un air d'Amérique. À demain.
À bientôt.